Bonjour Emmanuel Vivier.
Bonjour French Web.
Vous êtes, comme on dit, un expert digital et vous venez de commettre avec Jean-Noël Chintreuil un doc qui vient d'être publié sur SlideShare sur Pinterest. On parle énormément de Pinterest en ce moment. Vous avez voulu savoir si c'est vraiment une bonne opportunité pour les marques ou si c'est vraiment une nouvelle fumisterie, sans rentrer dans la polémique. Et vous essayez d'analyser tout ça. Pourquoi vous avez voulu creuser comme ça au fond de Pinterest? Parce que c'est vraiment le truc en ce moment dans le social media marketing.
Je pense une des spécificités du social media, c'est qu'il y a énormément d'innovations, beaucoup de sites et beaucoup de plateformes qui se lancent. Alors, il y en a qui ont du succès, d'autres pas. Il y en a qui ont du succès pendant un moment, d'autres bien plus longtemps. Et là, effectivement, il y a un énorme engouement, beaucoup de buzz autour de ce nouveau service qui s'appelle Pinterest, qui a aujourd'hui dépassé les 12 millions d'utilisateurs, ce qui est assez énorme en un peu plus d'un an et demi d'existence.
L'idée reçue principale en ce moment, notamment en matière de marketing, c'est que Pinterest, c'est une tuerie pour l'acquisition client, notamment pour les marques et pour le e-commerce. C'est vrai ça ou pas?
Alors, je pense que effectivement, déjà comme il y a de l'audience, ça intéresse forcément les marques. Alors, quand on dit les marques, évidemment, elles ne sont pas toutes égales. Il faut savoir que Pinterest, pour le rappeler, c'est un outil qui permet finalement de faire des collections de visuels. C'est un peu un Netvibes version 2.0 qui est très simple à utiliser, où on peut, on va dire, ajouter des collections, des boards. On appelle ça, c'est pas très joli en français, en pinant, comme une épingle, en épinglant, on va dire.
Oui, il faudra trouver le mot français exact. Ouais.
Contenu et c'est vrai que la spécificité quand même, c'est que contrairement à beaucoup d'autres outils social media, c'est pas les geeks et les early adopteurs qui l'ont lancé, mais c'est un énorme succès auprès des femmes et plutôt on va dire des non-geeks vu la facilité d'interface.
Donc quand il y a des femmes qui s'intéressent en grand nombre à ça, quand on sait que ce sont essentiellement des consommatrices qui font tourner le e-commerce, on se dit qu'il y a des jonctions possibles. Est-ce que votre enquête prouve qu'il y a ces jonctions justement et que de fait, il s'agit vraiment d'une opportunité absolument à ne pas rater pour les marques?
Alors, je pense qu'il faut toujours différencier les marques. Là, on parle vraiment de marques qui ont beaucoup de visuels. Donc, je suis pas sûr que pour des marques qui vendent du service, c'est très utile. Mais par exemple, pour les BPCistes, pour la mode, pour l'art, la photo, la déco, par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses à faire puisqu'ils ont énormément de produits à pouvoir montrer. Puis c'est pas forcément juste des produits. Là, l'idée, c'est pas de faire une grande brochure, c'est plutôt de créer des collections autour de lifestyle, de passion. C'est un petit peu comme un mood board, on va dire, qu'on retrouvait déjà chez les blogueuses de mode. Et c'est vrai que du coup, aux États-Unis, on a plus de 80% d'utilisatrices féminines. Donc évidemment, les marques ont compris que en permettant à ces femmes de pouvoir facilement réépingler du contenu de leur marque, ça allait pouvoir générer du trafic. Et on s'aperçoit que ça génère énormément de trafic pour le moment. On va voir si Google se réveille et change un petit peu son algorithme par la suite.
Est-ce qu'il y a un exemple aux États-Unis d'une marque qui a réussi vraiment à utiliser à fond les possibilités de Pinterest, à votre avis?
Alors, il y a énormément de marques aux États-Unis qui se sont lancées. On pense à Etsy, E-T-S-Y, par exemple, qui est un site qui permet à des individus de vendre directement leur à d'autres personnes, donc c'est des produits plutôt du craft, de l'artisanat. Eux ont plus de 53 000 followers, mais on prend Woolfood par exemple, qui vend énormément de on va dire d'alimentation assez écolo, enfin en tout cas on va dire bio, ils vont pouvoir effectivement créer énormément de contenu autour de ça, et aujourd'hui ils ont un petit peu plus de 14 000 fans. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui les marques arrivent évidemment toujours un petit peu après les utilisateurs, et on a des utilisateurs aux États-Unis qui peuvent déjà avoir plusieurs centaines de milliers de followers sur cette plateforme. Donc on va dire, c'est après à eux aussi d'être un petit peu intelligent. Un outil, ça reste un outil, faut savoir ce qu'on peut faire avec. On prend Lensend, qui est un petit peu comme Aigle aux États-Unis, enfin qui vend des vêtements. Eux par exemple, ils ont commencé à faire des jeux concours en challengeant les utilisatrices pour créer les meilleurs boards pour pouvoir gagner des bons d'achat pour leur collection.
Vous disiez tout à l'heure que le succès de Pinterest, c'est avant tout les utilisateurs, voire même utilisatrices lambda qui ont créé ce succès-là. Les leaders d'opinion ne sont pas directement à l'origine de ça, et c'est quand même un outil de curation pour un vrai partage de ces coups de cœur dans tous les domaines. Est-ce que si les marques arrivent là-dedans de façon massive, finalement, le modèle ne se perd pas en route assez rapidement?
Alors, je pense que comme toute plateforme, bien voir comment la communauté évolue avec l'arrivée des marques. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de banner. C'est vraiment les utilisateurs qui décident de publier ce qu'ils ont envie et de republier du contenu ou pas des marques. Donc, charge aux marques d'être un petit peu créatrices et pas juste de mettre de la pub. Mais c'est clairement déconseillé par les guidelines de Pinterest qui invitent vraiment les marques à pas juste mettre leur catalogue produit, mais plutôt à créer des univers, des idées avec ça. Et je pense que c'est comme partout, il y a des marques qui vont comprendre la plateforme, essayer de s'adapter, de créer des choses spécifiques. Il y en a d'autres qui vont juste arriver en mode push et ça marchera pas plus que sur Facebook ou Twitter avec ce genre de stratégie.
Donc votre recommandation, c'est vraiment de faire du brand content et pas de se contenter de balancer les images de ses propres produits.
Ben, je pense qu'il y a effectivement déjà toutes les marques ne sont pas faites pour aller sur Pinterest, donc je pense que effectivement la mode, la déco, l'art, la photo ont plus d'intérêt à y aller. Ça coûte pas très cher à part le temps qu'on y met pour expérimenter. Donc j'irai au moins créer mon compte et créer quelques bords pour comprendre un petit peu la mécanique, voir si potentiellement mon audience y est. Il faut quand même voir qu'au Royaume-Uni, on a une audience beaucoup plus masculine, qui est quasiment à la moitié des utilisateurs, beaucoup plus social media, marketing, etc. Donc je pense qu'il va falloir voir aussi en France comment la plateforme évolue en termes d'utilisateurs, de cibles pour les marques. Mais comme dans beaucoup de cas, il faut se jeter un petit peu dans l'eau du bain et au moins se poser la question et expérimenter pendant quelques temps pour voir si ça vaut vraiment le coup d'y aller ou pas.
Est-ce qu'avec Jean-Noël Chantreuil, vous avez repéré une face sombre de Pinterest ?
Alors, une façon de Pinterest. Alors Jean-Noël, lui, a plutôt un regard sur effectivement la partie RH et recrutement, marque employeur. Et lui, il s'aperçoit que par exemple l'armée américaine ou d'autres, on va dire sociétés, commencent aussi à essayer de faire découvrir les coulisses de leur organisation, de leur entreprise. Maintenant, c'est vrai que dans les risques, on pourrait se demander quand les gens vont venir uniquement pour le référencement, est-ce qu'ils vont pas tuer la plateforme? Et puis tout simplement, aujourd'hui, tous ces gens qui republient ou agrège ou curate du contenu, ben, ils le font sans forcément respecter les droits du copyright. Donc on a vu ce qui est arrivé à Mega Upload. Est-ce qu'il y a un risque qu'à terme tous les gens qui ont fait ces visuels, ces photos, etc., et qui les voient republier sans autorisation, ne puissent pas se retourner directement vers la plateforme, qu'elle ait un sort, on va dire, à la Mega Upload.
Un dernier mot, quand on parlera de réseaux sociaux dans 2 ans par exemple, est-ce qu'on parlera de Twitter, Facebook, Foursquare et Pinterest, ou est-ce que finalement ça peut être aussi un feu de paille qui va disparaître aussi vite qu'il est arrivé?
Alors, comme tout les plateformes, ça peut être un feu de paille, ça peut être un énorme succès. Je pense que ce qui est clé dans une plateforme, c'est est-ce qu'elle continue d'évoluer en étant à l'écoute de ses utilisateurs. On le voit, une des forces de Facebook ou Twitter, c'est de faire énormément évoluer la plateforme, de temps en temps en faisant des erreurs et en pouvant revenir vite en arrière. MySpace, qu'est-ce qui l'a tué? C'est essentiellement pendant plus de 2 ans, la plateforme n'a plus évolué. Elle s'est laissée dépasser techniquement. Après, je pense que c'est pas ou Pinterest ou Facebook. Il y a des méta-social media comme social network comme Facebook ou Twitter qui sont assez complets. Et puis, il y a des outils plus spécifiques pour certains usages et certains besoins, et les deux peuvent très bien exister, coexister sans aucun problème.
Bon, on va suivre ça, de toute façon, on entend parler absolument tous les jours. Merci beaucoup Emmanuel Vivier de cet éclairage, et puis on renvoie vers donc cette étude publiée en SlideShare. À bientôt.
À bientôt.